En ce 18 janvier, c'est la fête de plusieurs saints, dont Saint Cyrille d'Alexandrie, un grand saint, qui a été patriarche d'Alexandrie en Égypte. C'est un père de l'Église, un docteur de l'Église qui est mort en 444. Mais comme je vous ai déjà parlé de Saint Athanase et de plusieurs saints de cette époque, je le réserve pour l'an prochain, d'autant plus que, soit dit en passant, Saint Cyrille d'Alexandrie avait un peu mauvais caractère. C'est aussi la fête d'une bienheureuse solitaire. Tellement de gens sont solitaires de nos jours que j'aurais bien aimé en parler. C'est Béatrice d'Este, morte en 1262. Il y a aussi Christine Ciccarelli, une sainte religieuse augustine, morte au XVIe siècle. Il y a d'autres saints. Il y a Marguerite de Hongrie, tiens, une princesse hongroise, moniale dominicaine, qui est morte en 1270. On vous a annoncé ce matin aussi que c'était la fête de Sainte Prisque. C'est une vierge et martyr du milieu du IIIe siècle. Et c'est la fête aussi de ce fameux Saint Siméon Stylite l'Ancien, là, qui est vécu sur une colonne pendant très longtemps, en Syrie, qui est mort en 459. Je vous en parlerai un autre jour. Je passe plutôt à la fête aujourd'hui d'un bienheureux frère des écoles chrétiennes. Je vous en parlerai pas tellement longtemps parce que je voudrais vous parler surtout du docteur Thomas Dooley et du docteur Marcel Charleroi qui est vivant, lui. C'est une exception que je fais aujourd'hui. Alors, le bienheureux Jaime Hilario, j'aime, ça s'écrit comme j'aime, oui, J-A-I-M-E, ça se prononce Jaime. Et c'est un religieux, donc frère des écoles chrétiennes, qui est né il y a moins de 100 ans, en 1898, le 2 juin, en Vigny, Lérida, n'est-ce pas, en Espagne. Et il est mort en 1937, donc à 39 ans, même pas 38 ans. Le 18 janvier 1937, il a été martyrisé. Dès sa naissance, on peut dire que Dieu l'a préparé par toute une série d'épreuves au martyr. Et tout jeune encore, il avait perdu sa mère. Il a dû plus tard quitter le séminaire où il voulait devenir prêtre. Et à 18 ans, bien, il a sollicité son admission au noviciat d'Irun, ou Irun, si vous préférez, en Espagne, pour devenir frère des écoles chrétiennes. Le frère qui l'a reçu doutait un peu de sa vocation. Il l'a envoyé, sous prétexte d'apprendre le français, dans un petit noviciat, ailleurs. Et quelques mois après, bien, ce postulant prit l'habit religieux. Le 2 février 1917, donc ça a été un peu difficile pour lui. Et c'était un religieux d'une très grande piété, d'un zèle ardent, n'est-ce pas, pour la formation des jeunes. Il avait une dévotion profonde à l'Eucharistie, puis à la Sainte Vierge. Et c'était un modèle de vertu religieuse, mais il a dû cesser d'enseigner parce qu'il devenait de plus en plus sourd, bien que très jeune. Alors, il est allé comme catéchiste au noviciat français des frères des écoles chrétiennes à Pibrac. Pibrac, c'est en France, n'est-ce pas? C'est dans la région de Lourdes, grosso modo. Et c'était pas facile, ça n'a pas été facile pour lui. On l'a retiré pour en faire un aide-jardinier, finalement, puis un cuisinier. Alors, c'était dur pour quelqu'un qui avait déjà étudié, puis qui avait le goût de l'instruction. C'était une existence gâchée aux yeux des hommes, si on peut dire. Mais aux yeux de Dieu, c'était le début d'un jour, on peut dire, triomphal. Car quand a éclaté la Révolution espagnole, en juillet 1936, il s'est livré sans résistance aux soldats qui sont venus capturer. Puis il a invité ses compagnons de prison à entonner le Te Deum. Te Deum laudamus. Nous te louons, ô Dieu. C'est ce chant qu'avait entonné Marguerite Diouville à Montréal quand son hôpital, l'hôpital général de Montréal, a brûlé, elle qui l'avait construit, c'était l'œuvre de sa vie. Et elle a chanté gloire à Dieu quand même. Alors il entraînait ses compagnons à chanter le Te Deum, puisque, au fond, le Seigneur leur accordait la grâce de s'ouvrir quelque chose pour lui. Alors, quand on lui a appris la nouvelle de sa condamnation à mort, il s'est même réjoui. Il a dit, « Dieu soit béni. Au ciel, je prierai beaucoup pour vous tous. Qu'est-ce que je pouvais désirer de mieux que de mourir pour l'unique délit d'être religieux, frère des écoles chrétiennes, et d'avoir travaillé à la formation chrétienne des enfants. Et alors, près du cimetière, dans un endroit qu'on appelle La Oliva, près de Barcelone, peu avant l'exécution, c'est extraordinaire ce qui est arrivé. C'est absolument fantastique. Il est debout, les mains croisées sur la poitrine et les yeux au ciel, dans une attitude demi-extatique, un peu comme une statue de plâtre, sinon... Mais ça n'avait rien des statues de plâtre. C'était un jeune frère. Il s'est écrié « Mourir pour le Christ et vivre, mes amis ». Et soudain, d'un ton sec, l'ordre a éclaté « Feu !» Et une décharge d'ensemble a déchiré l'air. Ça a été répété par l'écho, hein. Et blême et souriant, le frère Ramé Hilario, ou Hilaire, si vous voulez, n'avait pas été touché. Alors, placide, il a regardé ceux qui venaient de tirer sur lui, et nerveusement, bien le chef a répété « Feu !» Une nouvelle décharge. Il restait debout, légèrement blessé au bras, mais il fixait ses meurtriers. Il avait l'air d'un agneau immolé, mais c'en était trop. Alors, comme mu par un même ressort, les soldats, complètement épouvantés, ont jeté leurs armes par terre. Ils ont pris la fuite en criant « Miracle ! Miracle !» Alors, décontenancé, le chef de la bande s'est approché. Il a insulté le frère Hilario. Et par 5 fois, il a déchargé son arme sous le menton de ce pauvre homme, de cet éducateur qui est tombé inanimé. On peut dire que le frère Hilario a reçu la palme du martyr. C'était le 18 janvier 1937. Mais l'an prochain, je vous raconterai tout ça en détail. Et je passe maintenant au docteur Tom Dooley, l'un des hommes les plus connus de ce siècle aux États-Unis en particulier. Car Thomas Dooley, qui est universellement connu sous le nom de Tom Dooley, c'est une des figures les plus attachantes des héros du XXe siècle. C'est un homme exubérant. Il est mort tout jeune, à 34 ans. C'est un homme exubérant, superactif, complètement imprévisible dans un sens. Mais il a fait une action de charité, une action caritative qu'il a entreprise à l'échelle internationale. Ça fait de lui un homme d'une grande vision et de profonde compassion, comme le docteur Marcel Charleroi, ce Québécois originaire de la Pocatière. Tom Dooley s'est transformé en profondeur sous l'action de la charité qu'il exerçait. Quand il a été atteint par le cancer en pleine course, rien n'a pu ralentir son élan, un élan intérieur qui l'habitait et qui le dévorait. Il a vécu, il est mort comme un témoin lumineux pour tout notre siècle, mais malheureusement, ici, il semble que nous l'ayons un peu oublié. Alors, je voudrais évoquer quelques étapes de cette espèce de vie fantastique d'un grand cœur, d'un cœur immense, qui était ce médecin. Thomas Dooley, est né en 1927, un an plus jeune que moi, à Saint-Louis, au Missouri, du mariage de Thomas Dooley, le même nom. Et sa mère s'appelait Agnès Wise. Cette famille comptait 4 garçons. Son père exerçait une discipline assez stricte, mais il avait un cœur d'or. Puis ses fils l'aimaient beaucoup. Et quand Thomas ou Thomas a parlé de s'orienter vers la médecine, son père croyait qu'il n'y aurait pas la patience d'aller jusqu'au bout dans ses études. Alors il l'a laissé aller quand même. Et Thomas Dooley a étudié quelque temps à l'université, comme on dit Notre-Dame, n'est-ce pas, dans l'Indiana. C'est une université dirigée par la congrégation de Sainte-Croix, qu'on connaît bien ici à Montréal, hein. C'est dans l'Indiana, donc au sud du Michigan, quoi. On connaît bien l'état du Michigan, hein. Donc c'est au sud. mais pas tellement loin de Montréal, finalement. Puis il s'est enrôlé dans la marine américaine. Il est envoyé à l'hôpital de la marine à Long Island, à New York, quoi, comme assistant infirmier pour soigner les blessés de la guerre. Alors, la dernière guerre, hein, la guerre 39-45. Et Thomas Dooley a complété ses études à Notre-Dame, à Notre-Dame, là, et à la Sorbonne à Paris par les cours amants français. En 1948, donc 21 ans, il a entrepris ses études médicales à l'Université Saint-Louis, au Missouri. Son père est mort 2 mois après son entrée à l'université, mais ses études médicales ont été bien, bien difficiles. Il s'absentait assez souvent des cours. Et heureusement pour lui, il y avait parmi la direction de l'université un vieux professeur qui a plaidé en sa faveur, en disant « Tom, c'est un garçon qui a du cœur, il est difficile de l'enfermer dans une routine. » Et en mars 1953, il a été reçu médecin. Il va mourir en 1961, donc c'est une vie très courte, mais fantastique. Il est mort comme Jésus-Christ, quoi, à 34 ans. On croit que Jésus est mort à 33, 34 ou peut-être 36 ans. Hein? Il n'est pas sûr. Les exégètes et les spécialistes ont beaucoup de difficultés à mettre le doigt dessus. Il y a une tradition qui nous dit que c'est 33 ans. Alors, un mois après avoir été reçu médecin, s'est enrôlé comme lieutenant dans la marine américaine pour travailler dans les hôpitaux militaires. Il a été en poste en Californie, puis au Japon, avant d'être assigné pour aller rejoindre le navire Montague pour participer à l'opération Passage ou Passage vers la liberté, hein? Passage vers la liberté à Haiphong, au Vietnam. Et là, en 1954, l'année suivante, le Vietnam venait d'être divisé en 2 zones après la défaite des troupes françaises, vous vous souvenez, à Dien Bien Phu. Le traité laissait les habitants libres de choisir le pays où ils désiraient vivre. Alors, des centaines de milliers de Vietnamiens ont abandonné leur maison, leur terre et une partie de leur famille pour fuir vers le sud, car le nord était passé au communisme. Haiphong est le port de mer de Hanoï, et c'est là que convergeaient les populations qui voulaient se rendre à Saïgon, dans la partie sud du Vietnam. Alors, le commandant du navire du Montague avait dit à ses hommes, « Votre travail consiste à construire un camp de réfugiés pour accueillir tous ceux qui sont dans le besoin. Ne me demandez pas plus de détails. » Alors, Tom Dooley a préparé un camp capable de recueillir 12 000 réfugiés. C'était le camp dit de la pagode. Le camp de la pagode. Le jeune docteur Thomas Dooley entendait la messe chaque matin. Chaque matin. Vous savez, la nourriture que donne Dieu, c'est lui-même qui se donne à la messe. C'est un repas à nul autre pareil, c'est un banquet. C'est bien plus qu'un banquet. C'est une immense offrande à Dieu notre Père, où on s'unit à son Fils. Si on savait vraiment ce qu'est la messe, on y courait comme le docteur Tom Dooley, on y irait tous les jours. Et après avoir entendu la messe tôt le matin, il se consacrait aux malades. Il consacrait toute sa journée aux malades. Il dit pendant ma première année, car il a écrit sa biographie avant de mourir, parce qu'il est mort de cancer, hein, pendant ma première année, j'ai vu plus de malades qu'un médecin peut en voir durant toute sa vie. Incroyable. Hein? On traitait les malades, en effet, avant de les embarquer pour Saïgon. Et en octobre, Thomas Dooley fut nommé officier commandant du camp. 600 000 personnes y ont été traitées, sans qu'aucune épidémie sérieuse ne se soit répandue. C'est comme un grand miracle, quoi. Le docteur Dooley a été mis en face des atrocités de la guerre. Un jour, il a vu arriver une famille qui avait été torturée par les communistes. Le père avait été arrêté alors qu'il enseignait le catéchisme. On lui avait coupé la langue et on avait percé les tympans des enfants. Oui, on avait percé les tympans des enfants pour qu'ils ne puissent plus entendre la parole de Dieu. C'est épouvantable. Quelle cruauté, hein, que de martyrs chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants au cours de ce siècle, devant cette espèce de ravage de l'athéisme, de cet athéisme communiste, qui est une désir de répandre un évangile sans Dieu, où il y aurait un partage des richesses, une justice meilleure, mais c'était des milliards d'injustices qu'ils ont fait. Quand on s'éloigne de Dieu, on perd le sens commun des choses. Même parfois, on croit croire et on perd le sens commun des choses, et l'Église est tombée dans ses erreurs aussi. Oh, beaucoup moins gravement que les communistes. Mais enfin, le docteur Dooley écrit « J'ai vu des choses au Vietnam que je ne croyais pas que des humains puissent faire. » Quand les communistes ont commencé à envahir Hanoï, Thomas Dooley est allé prier à l'église où il entendait régulièrement la messe. Il a emporté avec lui la statue de Notre-Dame de Fatima pour éviter qu'elle ne soit profanée par les communistes. Et à Saïgon, il a été reçu par le président Diem, qui l'a décoré de l'or national du Vietnam. Le docteur Thomas Dooley songeait à retourner aux États-Unis pour y compléter ses études médicales, et il a séjourné au Japon. Il a rédigé son premier ouvrage, son premier livre, « Délivre-nous du mal ». C'était un best-seller. Et à son retour au pays, les supérieurs du docteur Dooley lui ont demandé de donner des conférences à travers les États-Unis sur ce qui avait été accompli par la mission « Passage vers la liberté ». Il répétait presque le même message partout où il passait, dans les écoles, les groupes de médecins, les marins, les clubs Rotary. Il disait « J'ai vu à Haïphong des soins médicaux pratiqués simplement et amicalement. La haine et la peur se sont changées en amitié et en compréhension. Et la fraternité humaine passait de l'idéal à la réalité. » C'est ça que l'Évangile accomplit dans le cœur d'un chrétien comme Thomas Dooley. Par ses soins médicaux, hein, pratiqués simplement et amicalement, ça transforme la haine et la peur, hein, et tout ça s'est changé en amitié et en compréhension, comme il vient de le dire. Hein. Un jour, Thomas Dooley crie à sa mère, « Je démissionne de l'armée et je m'en vais au Laos. » Ça ressemble beaucoup au docteur Marcel Charleroi, ça. Hein. Le Laos, vous connaissez ça, hein. Ce pays qui est devenu indépendant de la France en 1955, c'est dans la région du Vietnam, Cambodge. Il a contacté trois autres jeunes médecins. Puis en 1956, tous quatre ont fondé une clinique à Van Vieng, au nord de Vientiane, la capitale du Laos. Les pauvres, les malades, les blessés, les mourants sortaient de la jungle pour venir à la clinique. Les enfants, surtout, qui souffraient du béribéri et de malnutrition, ils venaient en grand nombre voir celui qu'on appelait le bon docteur américain. Et le docteur Tom Dooley a rencontré une forte opposition de deux sources divergentes. D'abord, les médecins sorciers laotiens, puis d'autre part, chose absolument incroyable, les médecins de la colonie américaine du Laos. On a envoyé même des enquêteurs pour voir comment fonctionnait la clinique qu'avaient fondée ces quatre jeunes médecins. Et un témoin écrit, « Le vrai Dooley apparaît quand il soigne les enfants. Sa voix s'adoucit. Quand il leur donne des piqûres de pénicilline, il fredonne des airs, ou leur offre un bonbon ou un ballon. » Et le témoignage continue, « Dooley est un homme gêné, solitaire, dévoré par le doute et la peur, mais brûlé du désir d'aider les autres, craignant toujours d'être incompris. » C'est vrai que quand on s'avance comme ça, on craint toujours d'être incompris. Une dame me disait l'autre jour combien elle détestait une femme au Québec qui fait des œuvres extraordinaires pour aider les enfants malades. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas que cette femme puisse sourire en faisant tout ça. Que c'est malheureux. Que c'est dommage. Les gens qui aident les autres sont souvent incompris. Un autre médecin ajoutait au sujet du docteur Dooley, les gens riches de Park Avenue ne reçoivent pas de meilleurs traitements que les gens pauvres de la jungle de la part du docteur Dooley. Le docteur Thomas Dooley était très strict sur la tenue extérieure et sur la disponibilité pour les tâches à remplir. Il disait à l'ambassadeur américain qui voulait le faire sortir de la jungle, persuadé des dangers de la guérilla, je suis médecin. Tout le reste pour moi est secondaire. Foyer, vie sociale, carrière d'écrivain, train de vie, amour, famille, amis, rêve, renommée, fortune, tout cela vient après mon métier de médecin. Je répète pour les médecins qui m'écouteraient, j'ai un ami médecin qui m'écoute souvent. Je dis ça aussi pour les infirmières, les infirmiers, tous les gens qui s'occupent des malades. Je suis médecin. Tout le reste pour moi est secondaire. Foyer, vie sociale, carrière d'écrivain, train de vie, amour, famille, amis, rêve, renommée, fortune, tout cela vient après mon métier de médecin. Et en 1959, une enquête Gallup le citait comme le septième homme le plus célèbre du monde, après Churchill, Eisenhower et Jean XXIII. Il disait « C'est un honneur, mais c'est aussi quelque chose d'effrayant. » Il écrivait ça à sa mère. L'année précédente, soit en 1958, Medico fut fondé par les docteurs Dooley et Comenduras à Washington, et la nouvelle fondation voulait fournir des soins médicaux là où ils étaient défectués ou totalement absents. Nous voulons gagner l'amitié du peuple en travaillant près d'eux, sur un pied d'égalité, d'homme à homme. Medico est un programme de cœur à cœur. Et pendant les 5 mois qui ont suivi, le docteur Thomas Dooley a parcouru les États-Unis pour mousser son projet. Il a recueilli de fortes sommes et plusieurs jeunes médecins et infirmières ont accepté d'aller travailler avec lui au Laos. À l'automne 1958, il a fondé une nouvelle clinique et l'année suivante, il a fait un voyage en barque dans la région marécageuse de la rivière Nam Tha. Et quand il a accosté, il a fait une mauvaise chute, il est tombé sur des roches à 25 pieds au bas de la rive et la cage thoraxique a encaissé un dur coup. Et la douleur a continué pendant des semaines. Ça s'est étendu à la poitrine et au bras gauche. Il a continué à travailler quand même et chaque jour, quand il pouvait, eh bien, il assistait à la messe. Je vous ai dit qu'il s'était blessé gravement. Il a fait une chute terrible dans la région marécageuse de la rivière Nam Tha au Laos. Mais chaque jour, quand il le pouvait, je vous ai dit qu'il assistait à la messe. Et justement, dans la messe d'aujourd'hui, il y a un texte qui nous permet de bien comprendre le désespoir dans lequel vivent des populations qui sont abandonnées. Le psaume aujourd'hui à la messe dit « Pitié, mon Dieu, pitié. Des hommes s'acharnent contre moi et tout le jour ils me combattent, ils me harcèlent. Ils s'acharnent, ils me guettent tous les jours. À l'affût, ils épient, ils surveillent mes pas. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront, je le sais, Dieu est pour moi. Oh, sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Car tu m'as délivré de la mort, et tu préserves mes pieds de la chute, pour que je marche à la face de Dieu, dans la lumière des vivants. Et cet homme qui a chuté malencontreusement, le docteur Doulet, Dieu le préserve, le conduit vers les sommets de la sainteté. 6 mois plus tard, le docteur Van Valin, à la demande de Doulet, a fait l'ablation d'une masse de chair de la grosseur d'une balle de golf qui s'était formée sur le thorax. Alors le docteur Van Valin lui dit, c'est un simple kyste. Alors il a envoyé toutefois le tout à Bangkok pour une biopsie. Et le 15 août 1959, le jour de la fête de l'Assomption, Tom Doulet a reçu un télégramme du directeur de Medico lui demandant de se rendre aux États-Unis en toute urgence. Alors il a fait escale à Bangkok, et un des officiers de l'avion qui le ramenait aux États-Unis lui a dit, « Tom, prends un bon coup de bourbon, de bourbon, comme ils disent aux États-Unis, c'est cette espèce de whisky américain. J'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Ce que Van Valin a enlevé est une tumeur cancéreuse maligne. » Alors il a répondu, « Rien que cela, je pensais que tu allais me dire que mon travail ou Medico était en trouble, en difficulté. » Mais Tom Doulet était quand même troublé par cette nouvelle. On a fait une opération à l'hôpital de New York pour les cancéreux. On lui a demandé que l'opération soit télévisée pour aider à la lutte contre le cancer. Les médecins lui ont dit qu'ils avaient enlevé toute trace de tissu cancéreux. Et Tom Doulet a dit aux journalistes, « Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous faites avec les années qui vous sont données, mais comment vous les employez chaque heure. » Chaque heure. Alors, quelques semaines plus tard, il a repris ses tournées de conférences, 49 allocutions dans 37 villes américaines. À Noël, il était de retour au Laos. Il a écrit alors, « Je dois continuer à vivre et à planter de nouvelles semences de ma vie. Le cancer ne va pas plus loin que ma chair. Il n'y a pas de cancer dans mon esprit. Le Seigneur l'a dit, je suis le frère de tous ceux qui portent en eux la marque de la souffrance. » Alors il a continué à surveiller les cliniques médicaux. 17 projets en 12 pays différents. C'est une œuvre immense. Il est mort à 34 ans. C'est incroyable. Alors il est revenu aux États-Unis au mois de mai. On lui dit que le cancer ne progressait pas. Alors il a dit, je vais retourner au Laos. Mais il me reste 8 ou 10 mois à vivre. Il est retourné au Laos, puis il est revenu aux États-Unis pour un autre contrôle médical, puis en novembre, il était de retour, encore au Laos. En novembre, des métastases avaient envahi la colonne vertébrale. Il devait porter un corset pour pouvoir continuer ses activités. Imaginez, il portait un corset pour pouvoir continuer ses activités. C'est extraordinaire, hein? Il a eu encore la force de faire le tour complet de toutes les cliniques. Je vous ai bien dit qu'il en avait 17 dans 12 pays différents. Mais en décembre, il a été hospitalisé à Hong Kong. Il disait, « Ce qui est inaccessible, je le possède. Parce que je prie, je puis communiquer. » Que c'est beau, hein? « Parce que je prie, je puis communiquer. » Il ajoutait, « Combien doivent souffrir ceux qui ne peuvent communiquer avec Dieu? » C'est tellement beau que je veux le répéter. « Ce qui est inaccessible, je le possède. Parce que je prie, je puis communiquer. Combien doivent souffrir ceux qui ne peuvent communiquer avec Dieu? » Alors le Père rédemptoriste est venu le visiter à Noël, il lui a souhaité un joyeux Noël. Puis il a répondu, « C'est vraiment un joyeux Noël. Si c'est ainsi que Dieu le veut, c'est aussi cela que je veux. » Alors le docteur Doulet a reçu à nouveau la communion puis s'est mis à pleurer. Et là, le soir de Noël, il s'est rendu à l'avion en s'aidant d'une béquille. Il a refusé d'utiliser un fauteuil roulant dans l'avion puis il est arrivé à New York en pleine tempête de neige. Il est mort le 18 janvier, le lendemain de son 34e anniversaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à l'âge où Jésus est mort. L'ouvrage le plus célèbre de Thomas Dooley est celui où il raconte son histoire personnelle alors qu'il était en pleine lutte contre le cancer. Ce livre a été lu par des milliers de jeunes, surtout, qui y ont trouvé une inspiration pour leur vie. Aujourd'hui, quand des gens vont dans des écoles dire qu'ils ont donné leur vie et qu'ils ne le regrettent pas, une grande partie des jeunes s'insurgent contre ça et trouvent ça ridicule de donner sa vie. Où en a-t-on rendu dans la formation de notre pauvre jeunesse? Pauvre jeune, je ne les blâme pas. Il y a quelque chose qui a manqué. Le 27 mai 1961, donc un an après sa mort, c'est-à-dire 10 ans, je veux dire, après sa mort. Pardon, il est mort en 1961. C'est donc quelques mois après sa mort, c'est ce que je voulais dire. Le Congrès américain a fait frapper une médaille commémorative pour rappeler la mission caritative de ce médecin catholique missionnaire. Or, je vous ai dit au début que ce médecin a une émule au Québec, qui vit toujours, qui est jeune encore, le docteur Marcel Charleroi. Vous savez, c'est un médecin étonnant qui est né à la Pocatière et puis qui a eu une expérience fantastique. Un jour, au Sri Lanka, il dit, nous sommes entrés dans une cabane épouvantable. Il y avait là une famille de 15 personnes qui n'avaient pas mangé depuis 4 ou 5 jours, des cadavres vivants. Pour arriver jusqu'à eux, nous avions traversé des marécages puants et marché sur des excréments humains, poursuivis par des milliers de mouches. C'est ce que raconte le docteur Marcel Charleroi. Il œuvre au Sud-Asiatique depuis des années. C'est à la fin des années 60, en 1969, à 22 ans, qu'il est parti. C'est un médecin missionnaire laïque, québécois, qui est loin d'être un cas isolé, finalement. Mais on en parle beaucoup et avec raison. Et au fil de ses souvenirs, dans des ouvrages qu'il a écrits, en particulier « Au-delà des massacres, la vie, j'ai vu mourir l'Indochine », qui est paru chez le MEAC il y a bien longtemps, dans les années 70, « Les derniers jours de l'avenir », aussi chez le MEAC encore, livre admirable, livre merveilleux, qui est paru en 1980, et on a publié aussi une entrevue qu'il avait accordée à l'abbé Wilfrid Lemoine à mon émission Rencontre. C'était publié sous le titre « J'ai fait un rêve, celui d'aimer », encore chez le MEAC. Eh bien, ce docteur, ce médecin, quand on lit ses ouvrages, on se rend compte de la vigueur que peuvent avoir des jeunes Québécois. C'est extraordinaire. Dans ses souvenirs, il cite aussi le souvenir d'un enfant. Un enfant de 4 ou 5 ans qu'il a découvert dans un trou de ciment sans fenêtre et dont les cellules avaient été détériorées par manque d'air et de soleil. Ailleurs, dans un espace d'environ 4 mètres carrés, étouffait une famille de 9 enfants. Au Sri Lanka, des veuves sans instruction, accablées, souvent sous la charge de 6 à 20 enfants, se font exploiter par leur propre famille qui leur enlève leur maison. Elles se retrouvent alors dans une cabane. Il raconte aussi que des bidonvilles au camp de réfugiés, la misère humaine s'étend tout le temps, alimentée aussi par la violence qui sévit là-bas, tout comme au Cambodge et dans diverses régions des Philippines. Avec 100 de collaborateurs, médecins, dentistes, infirmières, nutritionnistes, travailleuses sociales, etc. Bien, le docteur Roy, qui est une émule aussi du docteur Albert Schweitzer, un Français, hein, Albert Schweitzer, et de Tom Dooley, cet Américain dont je viens de vous parler,
Ben, il s'efforce toujours de porter secours. Dans plus d'un pays, de cette partie du globe. Après les premiers soins indispensables, qui sont prodigués sur le terrain, dans l'une des 20 cliniques et même davantage des cliniques mobiles, l'action de ces équipes se concentre sur l'éducation. Il dit, nous amenons par exemple des mères dans un de nos deux centres permanents afin de les aider à assainir leur cabane, de leur apprendre aussi à coudre et à tirer parti de leurs faibles moyens pour mieux nourrir leurs enfants, en cultivant si possible un petit jardin potager. Il ajoute qu'il est essentiel en outre que les enfants aillent à l'école, car nous visons leur plein développement. Alors, le sort des réfugiés, c'est une sorte d'une autre préoccupation. Hein. Déjà en 1975, le docteur Marcel Charleroi accourait à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, bien avant l'arrivée de la Croix-Rouge et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il risquait à tout instant d'être attaqué par des troupes communistes isolées ou des bandits, ou de sauter tout simplement sur une mine. Il détournait alors les réfugiés cambodgiens vers la jungle ou d'autres lieux sécuritaires. Il allait chercher les enfants, non accompagnés et détenus, par la police des frontières pour les confier à des familles thaïlandaises ou à des ambassades. Puis, les ambassades se chargeaient de les envoyer dans les pays d'accueil respectifs. Il s'était plus facile au début. On sauvait des individus et non des masses de réfugiés. Il a fini par ouvrir un orphelinat à la frontière cambodgienne. Il déclare qu'il a fallu le reconstruire 3 fois à cause des bombardements. C'est incroyable. Dans la presse du jeudi 14 juin 1979, on rendait compte, pour la première fois dans la presse, de l'aide apportée dans la tragédie cambodgienne par ce tout jeune médecin québécois, qui avait alors seulement 32 ans. Moi, je l'avais interviewé à Rencontre encore plus tôt. Nous avions eu le plaisir à Rencontre, c'était en 77. Ça avait été le 27 décembre, c'était à l'occasion de Noël que j'avais voulu faire connaître ce tout jeune médecin. Ça avait été comme une révolution auprès de centaines de milliers de gens. Il était, en 1987, ils étaient près de 500 000 réfugiés. La moitié était installée dans des campements non reconnus, et les autres dans des camps officiels. Et certains seraient là depuis 1977, disait-on, vivant de façon précaire, des rations des Nations Unies, de l'aide des églises, les églises qui aident toujours. Ils étaient oubliés par la communauté internationale, car la situation a duré trop longtemps. Quand des drames comme ça durent très longtemps, tout le monde oublie, sauf un petit peu les Nations Unies, et sauf les chrétiens. Les chrétiens sont persévérants dans leur aide. Les œuvres du docteur Roy fournissent des vivres, des vêtements, des soins médicaux et dentaires, des livres aussi. Ah, à des foules, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Beaucoup de femmes et d'enfants seraient amenés illégalement dans des camps de réfugiés, s'y cacheraient. Ce sont des non-personnes, sans statut, sans protection, qui sont victimes de viols, d'abus sexuels et de tueries, nous rapporte le docteur Roy. Pour communiquer avec son monde, il a appris toutes sortes de langues. Il a appris, le docteur Marcel Charleroi, le thaïlandais et le tagalog, la langue nationale des Philippins, qu'il aime beaucoup. Et il déclare, je comprends aussi le cambodgien et le singalais. Ses œuvres s'appellent « Les œuvres d'amour » de Marcel Charleroi. Et ces œuvres-là comptent sur de nombreux comités d'aide établis au Canada. On dit même qu'il y en a aux États-Unis, en Australie, en Belgique, en France, en Suisse, en Italie, à la Cité du Vatican. Mais c'est surtout ici, au Québec, que l'on aide le docteur Marcel Charleroi. C'est ici. Il y a des bénévoles qui s'occupent de cela. En particulier, Madame Annette Fournier. On peut la rejoindre au casier postal 427, 43 rue Bellevue, à Saint-Pamphile. Le code postal à Saint-Pamphile est GOR3XO. GOR3XO. Dans ces comités, d'ailleurs, au-delà des bazars, il y a des grands bazars qui se tiennent à Montréal chaque année, à l'église Notre-Dame du Rosaire. On fait toutes sortes de cueillettes. On réussit à amasser souvent 500 000 et plus annuellement. Car il y a des dizaines de milliers de donateurs maintenant pour entourer le docteur Marcel Charleroi. C'est un bénévole extraordinaire qui aide à maintenir les frais, hein, les frais d'administration. Vous savez que les frais d'administration dans ses œuvres se tiennent autour de 3 à 4% seulement. Un jour, j'interviewais à rencontre le fameux cinéaste Michel Régnier. Homme admirable. Un athée. Oui, un athée. Je l'ai interviewé en 1987, je crois. Il me semble que c'est 1987. Ou 86, plutôt. Et il avait dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il avait dit à Marcel Brisebois qui lui demandait « Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces pauvres gens dont vous nous parlez ?» Car Michel Régnier a consacré sa vie comme cinéaste au tiers-monde. C'est lui qui avait tourné ce film extraordinaire, n'est-ce pas, qui était passé au Beau Dimanche, ce film sur les Haïtiens qui sont coupeurs de canne à sucre en République dominicaine, Sucre noir, qui nous rappelait que 200 000 Haïtiens vivent comme une sous-humanité en République dominicaine, comme des esclaves abominables. Il nous avait montré ça, c'était effrayant, hein, la télévision. Alors donc, à rencontre, il nous avait dit que pour aider les gens du tiers-monde, vraiment les aider, mais cet athée disait qu'il fallait donner son argent, des dons, à des œuvres catholiques. Oui, à des œuvres catholiques. C'était dans le magazine Time du 9 mars 1992, où on se rendait compte que le dirigeant américain du United Way of America, qui est la grande œuvre de charité américaine, recevait chaque année 463 000 $ de salaire et d'autres bénéfices, et qu'il se promenait toujours en première classe, qu'il voyageait en Concorde. Il s'était acheté un condominium de 430 000 $ à New York, etc. Que d'argent dépensé en futilité par des œuvres où les gens manquent d'intégrité. Et d'après Michel Régnier, bien c'est les œuvres catholiques. Je recevais justement d'ailleurs une demande d'argent d'une œuvre établie à Saint-Norbert, au Manitoba. Eh bien, 100% des contributions vont directement et exclusivement au bénéfice des pauvres, indépendamment de la race, de la couleur, de la peau, de la croyance ou de l'endroit où ils vivent. C'est une œuvre catholique qui s'appelle « The Call of the Poor » et c'est sous la... J'étais organisé et fondé par son Excellence, Monseigneur Omer Robidoux, hein, au moment de sa mort. C'est absolument phénoménal quand on y pense. Et je vous encourage donc à aider des œuvres comme celle-là. Le programme de Marcel Charleroi est absolument phénoménal. Hein. Beaucoup d'enfants dont nous nous sommes occupés, dit-il, sont devenus des leaders parce que nous avons cru en eux et leur pays s'améliore grâce à eux. En Thaïlande, des jeunes dont nous nous sommes occupés sont devenus médecins. Il est convaincu plus que jamais, le docteur Roy, que l'éducation reste la solution la plus efficace au malheur dont il est témoin quotidiennement. Il déclare qu'il y a plus de 52 millions d'enfants dans le monde qui sont maltraités, affamés, malades ou blessés, et je crains que ce chiffre soit en bas de la réalité, moi, à mon avis. Il déclare qu'il y a beaucoup à faire et chacun peut, s'il le désire vraiment, transformer son cœur et sa vie pour se consacrer entièrement à un enfant. Le docteur Roy a écrit aussi un livre qui s'appelle « Les derniers jours de l'avenir », qui est paru aussi en 1980. D'autres millions d'enfants sont venus grossir les chiffres. Le docteur Roy n'en est pas découragé. Il vise de parrainer 5 000 enfants. C'est ce qu'on atteint, à peu près, dans les œuvres d'amour de Marcel Charleroi. J'en parraine un avec grand joie, d'ailleurs. C'est tellement phénoménal. Hein? Il se déplace, il vient parfois au pays, et il retrouve sa maison de Sainte-Louise-des-Aunais dans l'Illet, où il a une douzaine d'enfants adoptifs. Il les a amenés du Cambodge. Il est même grand-père maintenant. La paternité, celle du cœur, c'est vraiment celle qu'il a. Hein. Il est l'aîné de ses 9 frères et sœurs. Des milliers d'enfants et de veuves cambodgiens l'appellent papa ou Lokta, qui signifie ancêtre. Ils y ont né vieux là-bas à mon âge, lance le docteur Roy, qui a gardé une candeur puis une fraîcheur d'âme extraordinaire. C'est ce qui m'a toujours émerveillé chez lui. C'est la candeur, la bonté. Il y a chez lui une grandeur d'âme extraordinaire. Il a publié aussi « La conversion du cœur » en 1990. Quand je vois tout ça qui se déroule dans l'Église, je m'émerveille, je l'aime davantage. Et je me rends compte que finalement, il n'y a probablement rien de plus beau sur la terre que ces grands chrétiens comme le docteur Tom Dooley, le docteur Marcel Charleroi, des laïcs admirables. Quel exemple des grands saints qui sont habituellement nos modèles, qui sont des religieux, des frères comme celui dont je vous ai parlé au début, frères des écoles chrétiennes, qui sont des hommes remarquables. Et on peut lire dans un livre qui vient de paraître chez Mediapol, publié sous la plume de Michel Gourgues. Le père Gourgues a écrit « Foi, bonheur et sens de la vie ». Et comme sous-titre, c'est « Relire aujourd'hui les béatitudes ». Je l'ai lu en grande partie. C'est un livre un peu technique, mais admirable, qui nous fait pénétrer au cœur des béatitudes. Et ce sont justement les béatitudes que vivent ces grands médecins chrétiens. Ce sont les béatitudes. Il est dit dans les béatitudes, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui font la paix. Heureux quand ils vous persécuteront. Le docteur Marcel Charleroi a eu, à certains moments, des armes placées contre sa poitrine. Il a failli mourir plusieurs fois. C'est fou. C'est absolument extraordinaire. Il est d'un courage sans borne. Il n'hésite pas. Il est missionnaire en mémoire de Jésus-Christ, comme il dit. Et on le découvre en lisant ses textes. Je vous rappelle les livres qu'il a publiés. Au-delà des massacres, la vie. Un autre livre, c'est « Les derniers jours de l'avenir ». J'ai fait un rêve, celui d'aimer. Et puis, il y a aussi la conversion du cœur, paru en 1990, sans doute plus facile à obtenir en librairie. Je vous conseille fortement, pour revenir au livre de Michel Gourgues, « Foi, bonheur et sens de la vie ». Vous y saisirez beaucoup mieux tout ce que veut dire cette charité extraordinaire qu'accomplissent des hommes, des femmes qui se donnent.